Bon, merci d'être venu. Vous êtes manifestement pas au complet. Je ne sais pas si on attend encore un peu ou pas. Donc c'est prévu jusqu'à 14h, me semble-t-il. Donc je m'appelle Fabrice Bonneau, je suis président du département génie industriel. Donc on va vous présenter ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, de vous inculquer, l'état d'esprit qu'on veut vous faire passer. On va essayer d'être le plus concret possible parce que je sais que c'est pas toujours simple. Il y a des élèves de deuxième année qui vont venir vous présenter les projets, quelques projets. Donc ça, je pense que c'est de nature à être aussi très concret et surtout, on attend que vous posiez des questions. On va essayer que ça soit le moins magistral possible, même si forcément on a prévu quand même quelques transparents. Voilà. Alors. Déjà, l'équipe. Donc il y a Aurélie qui est avec moi, responsable académique du département. Sandrine, inspectrice des études. Aurélie qui fait la science du département. Voilà, donc les cours, les formations, les projets, qu'est-ce qui marche bien, qui marche pas bien, comment on s'adapte à toutes les évolutions en cours dans l'industrie, on va en parler, Dieu sait s'il y en a. Voilà, donc moi je suis très impliqué là-dedans. Mon deuxième rôle important, c'est que je viens du monde industriel. J'ai un cabinet de conseil dont je suis un des dirigeants qui s'appelle Argon Consulting. On est une centaine de personnes et on fait du conseil dans tous les sujets de GI. Donc ça veut dire que je rencontre pas mal d'industriels, je travaille pour eux, j'essaye de comprendre leurs problématiques. Donc ça, c'est un apport, je pense, important pour vous, parce que jusque-là, vous n'avez peut-être pas vu beaucoup d'industriels et vous n'êtes pas été beaucoup confrontés. Et effectivement, il y a un conseil de département aussi qui se réunit plusieurs fois par an et dont l'objectif aussi, évidemment, est de nous aider à donner des orientations au département. Mon rôle, donc, c'est aussi de vous mettre en relation avec des industriels et vous allez voir, on va vous l'expliquer, c'est un des objectifs du département, c'est que vous soyez mis en face le plus rapidement possible à travers des projets, des rencontres, d'industriel, donc moi j'utilise tout mon réseau pour ça. Et enfin, je prends en direct le cours Supply Chain à partir de cette année, le cours Supply Chain Management. Aurélie, tu veux te présenter en deux secondes?
On s'est déjà vu à de multiples reprises pour la présentation des projets de département ou pour les cours d'initiation à la recherche. Donc moi, je suis directrice du département, directrice académique du département génie industriel. Je suis responsable d'un certain nombre de cours. On développe les projets avec Fabrice, avec le conseil de département. Et à côté de ça, je fais de la recherche aussi. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur la structuration des marchés pour les innovations radicales. Donc on a une complémentarité entre moi, mes sujets qui sont plutôt innovation, les sujets de Fabrice plutôt supply chain. Et le cœur du département et la richesse du département, elle est à l'intersection entre les deux.
Parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Qui a une idée très claire de ce qu'on fait? Voilà. Alors je pense que si Bernard il pose la question qui a une idée très claire de ce qu'on fait chez GCC, je pense que tout le monde comprendra. Donc on a un petit enjeu pendant 10 minutes. À vous faire comprendre, alors avec en plus l'image oscille, donc ça va faire en sorte que vous endormiez pas, vous faire comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, c'est absolument nécessaire. Alors, je vais juste vous poser une question quand même. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de former des gens qui aident les industriels à réussir. C'est aussi simple que ça. On va vous envoyer dans l'industrie, que ce soit des start-up de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens de GI qui vont dans la nouvelle économie, que ce soit des boîtes de taille moyenne ou des grands groupes. Il y en a encore qui vont dans les grands groupes, de moins en moins, mais il y en a encore. Et donc, nous, on vous envoie dans ces boîtes-là pour que vous les aidiez à réussir. Alors, à votre avis, juste une question, qu'est-ce qu'il faut à une boîte pour qu'elle réussisse? De l'argent? Oui, certes. Et comment elle fait pour avoir de l'argent, alors? À votre avis, si vous prenez des exemples que vous avez en tête, par exemple, Apple, ça a réussi. Alors pourquoi ça a réussi, Apple? iPhone, oui, d'accord, très bien. Et iPhone, c'est quoi? Bah, c'est un produit, l'iPhone. Donc, ils font un bon produit. Alors, est-ce que vous pensez que ça suffit? Qu'est-ce qu'il y a en plus dans l'iPhone, d'ailleurs? C'est un produit, certes. Oui. Du marketing. Oui. Mais iPhone, c'est un produit, mais c'est aussi beaucoup de services autour. Un iPhone sans service. Donc, effectivement, il faut un bon produit pour qu'une. Déjà, c'est sûr que si on n'a pas de bon produit aujourd'hui, c'est même pas la peine. Mais il faut aussi un bon service. Par exemple, dans l'automobile, aujourd'hui, certes, il faut une bonne voiture, mais la plupart des gens qui fabriquent des automobiles, ils commencent à proposer des services autour de... ils vous couvrent toutes les réparations, les garanties pendant 3 ans. Il y en a même qui vous vendent au kilomètre, etc. Donc, pour réussir, il faut un produit et un bon service. Oui, 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 une image de qualité. Mais si vous avez un bon produit et un bon service, c'est plutôt de là que vient l'image de qualité. Alors, ce qu'il faut quand même... c'est que ce soit un prix attractif, parce que vous pouvez prendre un bon produit, un bon service. Si vous le vendez trop cher, les gens ne vous l'achèteront pas. Donc, il faut un prix attractif. Alors après, vous pouvez avoir un prix attractif, un bon produit, un bon service. C'est facile d'avoir un prix attractif, mais il faut quand même que le prix il soit supérieur au coût. Donc, il faut quand même un coût qui soit le plus bas possible. Et là, la première remarque, c'est on veut gagner de l'argent. Bah, effectivement, il faut quand même que le prix soit supérieur au coût, sinon vous allez être rapidement en grande difficulté. Donc, coût, produit, service, et puis ensuite, effectivement, prix, pour faire une bonne marge. Alors, est-ce que ça suffit? Il y a un dernier point, il faut des gens pour acheter. Donc, il faut que vous ayez tout ça dans le bon marché. Parce que, de plus en plus, quand vous vendez des choses en Asie, quand vous vendez des choses en Afrique, ou vous vendez des choses en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, ce n'est pas le même marché que l'Europe, donc ce n'est pas les mêmes produits qui vont marcher. Vous pouvez avoir un excellent produit à un bon prix, qui a une bonne marge, mais que vous ne vendrez pas dans certains marchés. C'est comme ça, parce que les goûts ne sont pas les mêmes. Donc, il y a le marché qui devrait s'afficher, mais qui ne s'affiche pas. Donc ça, en général, les gens pensent à ça. Mais ça ne suffit pas. Alors, est-ce qu'il y a quelques gens qui ont des notions de finance dans la salle? Qu'est-ce qui manque pour une entreprise aille bien aujourd'hui? Elle vend des bons produits, bons services, elle fait des bonnes marges. Ben, moi, je peux vous dire que malgré ça, elle peut mettre la clé sous la porte. C'est déjà arrivé en 2009 que des gens, dans ce cas-là, mettent la clé sous la porte. À votre avis, pourquoi? C'était quoi la crise de 2009? Vous vous souvenez de la crise de fin 2008, la crise des subprimes, ça vous dit quelque chose? Ça se manifestait par quoi exactement, cette crise? Pour les industriels, ça se manifestait par quoi? J'entends pas bien. Donc je vais donner la réponse. Ça s'est effectivement manifesté d'abord par un manque de commandes, ça c'est vrai, mais ça s'est surtout manifesté par un problème avec les banques et par brusquement un manque de liquidité. Donc un manque de cash. À un moment donné, les gens se sont retrouvés dans des situations où finalement, ils vendaient des produits, ils avaient des marges, mais ils n'avaient pas de cash. Et une entreprise, pour bien fonctionner, elle a besoin de cash. Elle a besoin de cash pour investir. Elle a besoin de cash à un moment pour payer ses salariés parce que vous devez payer vos salariés plus vite que l'argent rentre de votre client. Donc à un moment, vous pouvez faire des marges en théorie, sauf que vous pouvez ne pas avoir de cash. Et une entreprise, c'est comme vous et moi. Si vous, à un moment, vous n'avez plus de cash, vous êtes dans la rue. Et je vais vous prendre un exemple simple, complètement idiot. Je le prendrai après, parce que vous le comprendrez mieux après. Mais... donc le cash, c'est depuis 2009, c'est devenu une obsession des directeurs financiers. Alors c'est quoi du cash? C'est juste avoir du cash, quoi. C'est-à-dire de l'argent sur son compte, de la trésorerie, du cash. Alors on se dit, mais ça, il suffit de faire des marges. Non, il ne suffit pas de faire des marges. Je prends un exemple. Imaginons que vous heureusement, j'espère, à un moment, vous allez gagner de l'argent plus que ce que vous dépensez. Sinon, dans la force, ça va poser problème. Et imaginons un moment où vous vous dites, tiens, le sucre est pas cher en ce moment, je vais faire une opération, je vais en acheter une tonne. Parce que j'ai calculé que pendant les 40 ans qui me restent à vivre, ma famille va consommer une tonne de sucre, et là il est vraiment très bas, et donc je vais faire des économies. Sauf que une tonne de sucre, ça va finir par être un peu cher quand même. Mais bon, à la limite, c'est de l'argent, quand vous le projetez, il va être rentable, parce que vous allez faire des économies. Sauf que, vous immobilisez votre argent dans l'achat d'une tonne de sucre. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas de cash et vous avez du sucre. Alors avec le sucre, on peut faire les choses, mais relativement limité quand même. Donc ça, c'est un exemple complètement idiot, évidemment. On n'est pas, ça marche, c'est bien. C'est un exemple complètement idiot, mais faire du stock, ça mobilise du cash. Donc les entreprises qui ont trop de stock, à un moment peuvent être rentables, mais avoir mis de l'argent dans des stocks, ce qui fait qu'elles n'ont plus de cash. Donc le cash, c'est un point essentiel, et le cash, il est beaucoup dans le stock. Alors il est aussi dans le cash, le fait que les clients ne payent pas, ou qu'on paye nos fournisseurs trop tôt, etc. Mais le cash, c'est quelque chose d'absolument clé. Donc je vais vous prendre un seul exemple, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, jusqu'en 2009, s'en foutait complètement du cash. Donc, parce que l'argent, ils empruntaient facilement, voilà, tout allait bien et tout. Et brutalement, en 2009, l'aéronautique, ils avaient des marges, sauf qu'ils n'avaient plus de cash. Et les banques n'apprêtaient plus en 2009. Il n'y avait plus de liquidité. Donc, et faire un avion, c'est très long. Donc, il y a beaucoup d'investissements. Vous n'êtes pas payé tout de suite. Et donc, brutalement, il y a eu tout un tas de projets pour récupérer du cash. Et récupérer du cash, c'est en général diminuer les stocks. Et ça, ça fait partie des sujets qu'on regarde. Donc, en fait, tout ça pour vous dire... Et d'ailleurs, les petites boîtes ne regardent pas vraiment leur résultat à la fin de l'année. Ce qu'elles regardent, c'est leur cash, parce qu'elles savent toutes qu'elles peuvent être positives et mettre la clé sous la porte. C'est ça qui est un peu étonnant. Donc, une entreprise va aller très bien si elle vend un bon produit, un bon service, à un bon prix, avec un très bon coût, qu'elle a des clients pour acheter, et qu'en plus, elle a du cash qui permet d'ailleurs de faire des croissances externes, de payer ses employés, etc. etc. Donc nous, modestement, on va essayer de travailler sur tous ces sujets. Alors, effectivement, on va faire le lien, il faut faire le lien entre tout ça, là, et ça, je peux vous dire, quand vous parlez à un chef d'entreprise, il comprend parfaitement. Et nous, ce qu'on va mettre en face, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises soient meilleures sur tout ça. Et ça structure complètement le département. La première chose, c'est que toute la partie haute, qui est finalement le coût, le service et le cash, il y a une fonction dans l'entreprise qui s'appelle la supply chain, que je vais expliquer juste derrière, et dont l'objectif, c'est d'optimiser ce qu'on appelle ce triangle, le coût, le cash et le service. Donc vous allez voir comment la supply chain, ce qu'on appelle la supply chain, et qui est un des piliers du département, un des deux piliers du département, fait en sorte que les entreprises optimisent le coût, le cash et le service. Évidemment, la deuxième partie, qui est plutôt là, se dire quel bon produit je vais faire, pour quel marché, etc., etc., c'est plutôt des sujets d'innovation, forcément. Donc on est plutôt en bas sur des sujets d'innovation, avec des recouvrements d'ailleurs sur le service, parce que le service, il faut à la fois être bon en exécution des opérations, mais aussi être bon en créativité, en innovation. Donc vous voyez, modestement, le département, il essaye d'adresser ces six critères, en vous donnant des fondamentaux sur tous ces sujets, et avec quelque part deux colorations dont on va parler, une coloration plutôt supply chain, que je vais expliquer parce que ce n'est pas la plus facile à comprendre. Donc une coloration plutôt supply chain et une coloration plutôt innovation. Alors, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont entendu le terme supply chain? Tous les ans, ça progresse. Est-ce qu'il y a des gens capables d'en donner une définition? Alors, premièrement, est-ce qu'il y a une traduction française, est-ce qu'il y a une traduction française au mot supply chain? Non. Officiellement, non. Donc la logistique, par exemple, n'est pas une traduction de supply chain. C'est un sous-domaine de la supply chain. Mais la supply chain, c'est bien plus large que ce qu'on appelle la logistique. La logistique, pour les gens, c'est peut-être plus facile à comprendre. C'est tous les aspects un peu flux physique. Donc le transport, stocker des produits, tout ça, ça c'est la logistique. Mais la supply chain, c'est évidemment bien plus que ça. Donc on va essayer de donner une définition de la supply chain. Alors ceux qui ont suivi le Beer Game ont peut-être... un petit coup d'avance sur les autres. La supply chain, c'est finalement, son objectif, c'est d'optimiser le triangle coût, cash, service. Donc c'est de se dire à une entreprise, comment faire en sorte que je sois toujours au meilleur coût, que j'ai toujours un excellent service et que je fasse le moins de stock possible. C'est son objectif. Donc là, c'est vraiment une définition d'ingénieur. On a le critère à optimiser en haut. Alors malheureusement... il y a trois critères, ils se mesurent accessoirement pas tous de la même façon, donc ça c'est pas le plus simple. Mais il y a le critère, et c'est quoi le problème à optimiser et les contraintes? eh ben, cette espèce de truc. C'est quoi cette espèce de truc? C'est tout ce qui permet, en partant d'une matière première jusqu'au service du client final, qui permet de faire toutes les opérations. Donc, si vous prenez par exemple une boîte comme Michelin qui fabrique des pneus, ça paraît vachement simple, un pneu. Eh bien, Michelin, ils partent de la gomme naturelle qui est au fin fond de l'Amazonie ou en Asie. Ils ont ensuite, eux-mêmes, ils ont tout un tas de fabrications, de composants qui servent à faire les pneus, qui a en deux ou trois étapes. Ensuite, c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Ensuite, ils ont une espèce d'assemblage final qui est je moule les pneus et tout ça, avec un certain profil. Et ensuite, c'est loin d'être fini, comme vous le voyez. Ils ont des centres logistiques, pour le coup, des centres, des entrepôts, où ils stockent les pneus de manière massive, et ensuite, ils les envoient dans tous les pays du monde, parce qu'ils sont présents dans tous les pays du monde, vers leurs clients, qui sont des gens qui font de la distribution, des dealers, des garagistes, etc. Donc, en fait, les opérations de Michelin, ce qu'on appelle les opérations, enfin, c'est tout ce qui fait qu'on part d'une matière première jusqu'à je livre un pneu en temps et en heure en m'engageant sur quand je vais vous le donner. C'est tout ça où il faut optimiser le coût, le stock et le service. Et en plus, dans un environnement qui est complètement incertain. Parce que ça serait tellement plus simple si on savait ce qu'il faut fabriquer. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il faut fabriquer. Donc, on ne sait pas ce qu'il faut fabriquer. On a une chaîne extrêmement complexe et on a des entreprises qui veulent optimiser le service, le coût et le stock. C'est ça la problématique. Donc, c'est quand même pas une problématique soft. Dit autrement, c'est une problématique où il faut mettre un peu d'énergie intellectuelle, un peu de maths, un peu d'informatique, beaucoup d'analyse, etc., etc. C'est un vrai problème d'ingénieur, la supply chain. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, c'est probablement la discipline dans les entreprises qui est la plus scientifique, après peut-être ou avec peut-être la R&D. Mais c'est une discipline extrêmement scientifique. C'est un vrai problème d'ingénieur. Pourquoi c'est un vrai problème d'ingénieur? Bah, c'est un problème d'ingénieur parce que le triangle coût stock service, ça serait facile, on se dirait, c'est simple à optimiser. Mais le triangle coût stock service, ça veut dire quoi? Service, ça veut dire, par exemple, le service, vous avez tous été sur Amazon. Tout le monde considère, j'imagine, que le service d'Amazon, il est super. C'est quoi, par exemple, Amazon en premier? Qu'est-ce qui a fait la différence avec Amazon? C'est ce qu'on appelle le respect de la promesse. Ils ont d'ailleurs des algorithmes infernaux pour calculer le jour où ils sont capables de vous livrer. Vous passez, vous cliquez et on vous dit ça, vous allez le recevoir dans 3 jours. Alors vous trouvez ça complètement, bah oui, évidemment, pauvre naze. Bah oui, mais il faut les calculer les 3 jours. Hein. Parce que les produits peuvent être aux 4 coins du monde, il y a du transport partout, du stock, du machin, il y a des millions de références. Donc sur un clic, allez dire bah, je vous livre dans 3 jours, je ne sais pas où, à Marne-la-Vallée. Bon, il faut y aller un peu quand même. Et après, ils essayent de respecter la promesse. Alors, ils ne la respectent pas toujours, mais les taux de service d'Amazon, ils sont quand même particulièrement élevés. Donc, le service, maintenant, dans le monde actuel, c'est déjà de respecter la promesse qu'on a faite. Évidemment, la disponibilité, parce que si je respecte une promesse que je ne tiens jamais, hein, c'est facile, hein, le produit n'est jamais dispo, et tant que temps il est dispo, je tiens ma promesse, ça ne va pas vous intéresser non plus. Donc, il faut que les produits soient disponibles. Il faut évidemment que... Alors ça, c'est plutôt du B2B que du B2C, mais il faut qu'on soit capable aussi de livrer des produits avec une fréquence suffisante. Il faut évidemment que la promesse, si vous achetez un petit truc sur Amazon et qu'à chaque fois on vous dit un mois, bon, non. Donc le délai. Et puis évidemment, il y a le service à valeur ajoutée. C'est de vous dire, bah oui, je vous livre ça, mais je peux vous livrer ça en même temps, je peux faire un kit, je peux faire tout un tas de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le service. Le cash, je l'ai dit, c'est les stocks. Donc les stocks, il y a les stocks de matières premières, il y a les stocks en encours dans toute la chaîne que je vous laissais voir, et puis il y a les stocks de produits finis. Donc, vous imaginez par exemple, je reprends l'exemple d'Amazon. Amazon, il y a des millions de références. C'est quand même hallucinant, hein. Vous allez sur Amazon, vous trouvez tout. Ça vous est déjà arrivé de ne pas trouver un truc sur Amazon, c'est quand même complètement fou. On trouve absolument tout. Ça veut dire qu'il y a des millions de références qui sont disponibles. Vous imaginez la gestion du stock, à quel endroit on met les stocks, comment on les dimensionne, de millions de refs, vous imaginez la complexité à gérer ce machin. Donc, stock de produits finis. Et évidemment, Amazon, ils doivent faire des marges. D'ailleurs, ils n'en font pas tant que ça, malgré tout, parce qu'en face, il faut mettre des coûts. Alors, ils n'ont pas trop de coûts de revient industriel, mais ils ont des coûts d'achat quand même. Et ça, c'est important. Et ils ont des coûts logistiques et des coûts de transport, et qui sont là extrêmement pénalisants. Parce que quand on vous dit, on vous livre le lendemain un produit machin, des fois, le coût de transport est plus cher que le produit. Donc ce coût-là, il n'est quand même pas négligeable. Donc, on se dit, ben voilà, il faut optimiser tout ça. Et le malheur, c'est que ces coûts, ils sont antinomiques. Donc ça, c'est vraiment un problème d'ingénieur. Comment on optimise des coûts antinomiques dans un monde incertain? Alors, ils sont antinomiques, on ne va pas tous les balayer, hein. Mais évidemment, quand vous êtes engagé auprès d'un client, je prends l'exemple de Michelin, par exemple. Je reprends l'exemple de Michelin. Vous êtes engagé auprès d'un client de fabriquer et de lui livrer un certain nombre de pneus. Mais l'usine derrière, elle fabrique des pneus. Est-ce que vous croyez qu'elle les fabrique à l'unité, référence par référence, à votre avis? Non. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi Michelin ne fabrique pas le pneu de 16, puis le pneu de 19, puis le pneu, à votre avis, pourquoi? Il y a des temps de changement de série. Quand vous fabriquez un pneu, vous mettez un moule. Et le moule, vous savez combien de temps il faut pour le changer? À peu près 5 heures. Donc vous avez des équipements industriels, vous mettez 5 heures pour changer un moule. Un pneu, vous mettez 1 minute pour le fabriquer. Vous imaginez 2 secondes, si on changeait 5 heures, on fabrique 1 minute, on change 5 heures, on fabrique 1 minute. Ce n'est pas vraiment une option. Donc on travaille par campagne. Ça veut dire que le client, lui, il n'a pas demandé des millions de 16 pouces et puis des millions de 19. Il demande un 16, un 19, machin. Donc en fait, c'est complètement antinomique de gérer des priorités clients et d'optimiser sa production. Ça, c'est un vrai problème. On a d'ailleurs chez Argon un thésard des ponts qui travaille précisément sur ce sujet. C'est quoi les tailles optimum de lancement en production pour optimiser le stock tout en respectant les contraintes de changement dans les usines? Pour vous dire que c'est un peu compliqué quand même. Donc des sujets comme ça, je ne vais pas tous les balayer, mais il y en a plein. Celui qui est le plus évident, le deuxième, c'est évidemment le stock et le service. Parce que vous reprenez l'exemple d'Amazon. Ce qui est fort d'Amazon, c'est qu'ils ont les produits en référence, mais ils les ont en stock la plupart du temps. Donc vous vous dites, bah, c'est facile, il suffit d'avoir des stocks. Sauf qu'avoir des stocks, encore une fois, c'est du cash et ça coûte. Donc comment faire en sorte d'avoir des produits disponibles sans trop de stocks? Je peux vous dire que là, voilà, c'est statistique, voire machine learning, c'est des sujets extrêmement complexes. Bon, j'ai pris que ces deux exemples-là, mais il y en a évidemment plein d'autres. Tout ça pour vous dire que GI, contrairement peut-être à une idée reçue que vous auriez à tort, il y a un contenu scientifique très élevé, et en particulier un contenu de maths appliquées. Certes, on ne fait pas de mécanique chez GI. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas qu'on n'aime pas la mécanique, c'est que ça ne nous servira à rien. Donc, on fait des maths appliquées. En particulier, on fait de la recherche opérationnelle. Beaucoup. C'est un des cours cœur de GI. C'est quoi là? Vous avez fait un peu de recherche opérationnelle ou... Oui, vous avez commencé. Donc, la recherche opérationnelle, c'est ça, hein. C'est j'optimise des critères sous contrainte. C'est la base de la supply chain. Donc ça, c'est la première discipline. Alors, elle va par exemple aider, je vais faire tout le slide, mais elle va aider dans la modélisation de réseau. Alors, c'est quoi la modélisation de réseau? Par exemple, moi j'ai travaillé pour Darty il n'y a pas très longtemps, avant qu'ils soient rachetés par la Fnac, parce qu'ils voulaient habiller la mariée. Et donc la question, c'était, est-ce qu'on a le bon nombre de centres logistiques de réparation? Le centre logistique où on stocke les pièces pour la réparation. Il y en a un certain nombre en France. Est-ce que c'est le bon nombre? Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Tout ça, c'est des techniques de recherche opérationnelle. Donc, modélisation de réseau. Donc ça, on utilise beaucoup la recherche opérationnelle. On l'utilise aussi pas mal pour la planif. La planification, c'est, bah, j'ai des capacités de machine, je ne peux pas faire n'importe quoi, à quel moment je fabrique le produit, sur quelle machine, à quel endroit, dans quelle usine, etc. Ça, c'est de la planification. Et puis, évidemment, on est dans un environnement incertain. Je vous disais tout à l'heure que les industriels ne savent pas ce qu'ils doivent fabriquer. C'est vrai. Au moment où on fabrique un pneu, on ne sait pas pour qui il est, on ne sait même pas si quelqu'un va nous l'acheter. Donc, à un moment, il faut faire des prévisions. Donc, il faut prévoir ce que les gens vont nous acheter. Exercice difficile. On n'est pas Nostradamus. Donc, par exemple, les pneus hiver, c'est le cauchemar de Michelin tous les ans, parce que c'est lié à la météo. Donc le niveau de vente des pneus hiver est lié à la météo, sauf que les pneus hiver, il faut du temps pour les fabriquer. Donc au moment où ils les fabriquent, ce n'est pas encore l'hiver. Donc il faut faire des hypothèses. faut regarder les statistiques, voilà, il y a tout un tas de choses à faire pour essayer de prévoir la demande. Donc ça, c'est un exercice compliqué. Alors pour faire ça, on utilise des statistiques et on commence à utiliser du machine learning. Est-ce que les gens, qui a entendu parler du machine learning? C'est bien. Le machine learning, c'est un peu des statistiques, malgré tout. Le machine learning, c'est, voilà, mot à mot, c'est de l'apprentissage d'une machine, mais c'est surtout d'essayer de reconnaître des classes et des situations suivant un certain nombre de critères et se dire, dans ce cas-là, avec ces critères-là, je suis dans ce cas-là, donc il va se passer ça. Donc ça peut faire, ça aide à faire du prédictif, donc de la prévision. Voilà, et puis alors, chez GI, là aussi, très important, et je peux vous dire dans mon métier à moi, qui est le conseil en supply chain, mais y compris dans l'opérationnel, la modélisation au sens manipulation de données, capacité à analyser des données d'une situation de stock, de coût, de tout ce qu'on a vu, et essayer de modéliser des actions d'amélioration pour dire on va gagner ça en stock et tout, c'est absolument fondamental. Donc, si vous êtes, honnêtement, je vais vous le dire tout à fait directement, au moins sur la supply chain. Sur l'innovation, c'est un peu moins vrai. Si vous voulez faire de la supply chain et que vous n'aimez pas les données et les chiffres, bon, il faut réfléchir. Vous allez avoir quelques problèmes. Donc, on est quand même dans un environnement, voilà, de données, de modélisation. Il va falloir apprendre Excel, il va falloir apprendre Access. Voilà, il ne faut pas avoir peur des données dans la supply chain. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on a une semaine d'ouverture au tout début de la deuxième année, enfin au tout début, là, quand vous allez rentrer, qui va être d'apprendre les basiques de la modélisation, parce qu'on en a besoin tout le temps. Voilà, donc ce message pour vous dire que GI, ce n'est pas des sciences molles, ce sont des sciences dures, avec des maths appliquées quand même, et beaucoup de modélisation, de données, etc., des statistiques, et il faut que vous l'ayez en tête. Une fois qu'on a dit ça, on est effectivement dans la vraie vie. Et le problème dans l'entreprise, c'est que tout ne se met pas en équation. Et ça se met peut-être en équation, mais quand vous avez tout mis en équation, vous avez la solution optimale, vous avez fait 20% du chemin, malheureusement. Parce qu'après, il faut convaincre les gens que c'est la bonne solution, il faut les embarquer, voilà, il faut être les bonnes solutions, il faut déjà que le problème soit bien posé, en général, il ne l'est pas, donc. Donc là, on est dans dans ce qu'on appelle, dans le jargon consultant, les soft skills. Et c'est tout ce que vous n'avez pas aujourd'hui, pour dire les choses. Alors, suivant vos personnalités, vous l'avez plus ou moins. Mais tout ce qu'on vous a appris jusque-là, il n'y avait pas. La prépa, c'est anti-soft skill, il faut le dire. Par contre, sur le reste, c'est parfait, hein. Donc je ne suis pas en train de dénigrer la prépa, bien entendu, je suis passé par là aussi et ça m'a beaucoup appris. Mais il n'y a pas de soft skills en prépa. En première année, il y en a un peu, mais enfin, c'est quand même la suite de la prépa. Donc là, il va falloir quand même que vous rentriez un peu dans les soft skills, alors vous avez après 20 ans pour apprendre des soft skills. Mais malgré tout, on est dans un monde où si vous ne savez pas travailler en équipe, dans des environnements multiculturels, si vous ne savez pas oublier de temps en temps la dimension analytique, parce que la dimension analytique, ce n'est pas celle qui aide à être le plus innovant, parce que analyser un problème fait que vous allez être du mal à en sortir. Donc, l'exploration, des fois, c'est mieux que l'analyse. Donc, il va falloir oublier un peu tous les réflexes. Et ça, c'est vrai que c'est une de nos différenciations. Je pense que GI, on a un contenu scientifique, je tiens à le rappeler, qui est extrêmement fort, mais on a un deuxième pied, et pour le coup, qui nous différencie des autres départements, c'est qu'on fait un effort particulier sur les soft skills, parce que dans l'entreprise, c'est quand même ça qui va faire la différence. Parce que vous êtes dans l'élite française, j'en doute pas un seul instant, et vous êtes super brillant, et les gens qui arrivent des ponts, je les vois en tant que consultant, ils sont super brillants. Mais il y en a d'autres, un peu quand même, comme vous. Et la différence, elle va se faire très souvent sur les soft skills. Sur les gens qui vont prendre, qui vont être capables de bien communiquer. C'est très important de bien expliquer ce qu'on fait, qui vont être capables de travailler en équipe, d'embarquer les gens, voilà, d'avoir de la bienveillance avec ses équipes, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Capacité à sortir du cadre et tout. Alors, vous me direz, on vous l'apprend comment ça? Parce que ça, à apprendre, c'est pas tellement un cours magistral. Si je vous fais un cours magistral sur la bienveillance, ça va être un peu compliqué. Ou si je vous fais un cours magistral sur comment sortir du cadre, ça va être un peu compliqué. Donc, en fait, 1. on vous met en face d'industriels, tout de suite, dès le mois mi-octobre. Donc vous êtes en phase industrielle sans nous, qui ont un problème vrai, qui vont vous poser. Et là, vous allez être un peu déstabilisé, parce que ce n'est pas une feuille avec question A, question B, question C. C'est la question, il la connaît à peine, elle est mal formulée, c'est sûrement pas la bonne, les données qu'il vous donne sont moitié pourries. Voilà, donc vous êtes dans la vraie vie. Et donc, il faut s'adapter un peu. Donc, on vous confronte tout de suite à des industriels. Ça, c'est l'avantage de Mélusine. Le deuxième avantage de Mélusine, c'est qu'on porte une attention très particulière à la façon dont vous allez communiquer. Donc, vous allez restituer, vous êtes filmé, il y a quelqu'un qui vous explique toutes les bêtises que vous avez fait en communication, comment présenter les choses, etc. etc. Donc, ça, c'est fondamental. On vous met en face d'industriels au travers des métiers de l'industrie. Donc, vous allez rencontrer un peu tout le monde tous les lundis. C'est les lundis ou les mercredis. Tous les lundis, vous allez rencontrer un peu tout le monde, de tous les secteurs, et leur poser les questions que vous voulez. Et ils vont vous faire part de leur expérience. Ça aussi, on y tient beaucoup. Et puis, on a des pédagogies en rupture. Alors, elles sont tellement en rupture, d'ailleurs, qu'il y a des élèves qui sont un peu... Il y a des années où ça se passe très bien, il y a des élèves qui font des blocages. C'est tellement différent de ce que vous avez appris jusque-là. L'exploration pour l'innovation, c'est tellement différent comme démarche de l'analytique, qu'il y a des élèves bon, qui ont un peu de mal, mais c'est absolument indispensable. Il faut absolument que vous appreniez à sortir du cadre. Il faut absolument que vous appreniez à penser out of the box. Il faut absolument que vous appreniez différemment que je réponds à des questions ou j'analyse, je diagnostique, et donc du coup c'est ça. Il faut que vous sortiez, c'est très important de savoir faire ça, mais il faut que vous ayez cette compétence en plus. Et si vous l'avez en plus d'ailleurs, vous allez être des bombes sur le marché. Parce que quand même en France, je ne veux pas trop dénigrer la prépa, mais le cycle prépa-école d'ingénieur, il est incompris de l'international, mais il est quand même exceptionnel. Ça fait des gens qui sont super forts sur la dimension analytique, synthétique, calcul, etc. Et vous en êtes. Mais si en plus vous êtes capable d'avoir les soft skills, d'être innovant, etc., je peux vous dire que le cocktail des deux, il peut être détonnant. Donc c'est pour ça qu'on vous propose des pédagogies en rupture. Donc on est supporté par la D-School pour ça. Je vais d'ailleurs faire un petit zoom sur la partie innovation. On est supporté par la D-School pour ça, avec des méthodologies qui sont absolument éprouvées. Le design thinking, si vous en avez entendu parler. Le design thinking, c'est né en Californie. La plupart des innovations ont été faites avec cette méthodologie. Il y a le projet ME310 qui est plutôt troisième année pour ceux qui le veulent, qu'on fait en collaboration avec Stanford, etc. Mais on a un avant-goût de tout ça à travers le projet Innovacteur, plus un certain nombre d'autres séminaires. Et pour ceux qui prendront la partie, le focus innovation, évidemment, vous aurez encore plus cette coloration-là. Alors, pourquoi on tient beaucoup à l'innovation? Il y a deux raisons pour lesquelles on tient beaucoup à l'innovation. La première raison, je viens de l'expliquer, c'est qu'il faut que vous soyez des ingénieurs innovants dans le monde actuel. Même ceux qui vont faire de la supply chain. La supply chain, c'est un monde où il faut innover aussi. Et donc, vous donner ces méthodologies en rupture, c'est très important, y compris pour ceux qui veulent faire de la supply chain. Donc ça, c'est le premier objectif de l'innovation. Le deuxième objectif, c'est ceux qui veulent faire de l'innovation, j'aurais tendance à dire, pour l'innovation. C'est-à-dire... ça va être votre majeur, et quelque part, les gens qui vont aller vers l'innovation, il y a plusieurs possibilités, hein, mais il y en a deux majeures. C'est soit vous êtes intrapreneur, et ça c'est de plus en plus recherché dans les boîtes, c'est-à-dire quelque part, les boîtes de taille moyenne ou grosse aujourd'hui recherchent des gens capables d'apporter de l'innovation dans des boîtes, parce que les boîtes, grosses boîtes ne sont pas très innovantes aujourd'hui, elles n'ont pas cette culture, elles n'ont pas ces méthodes, donc ils recherchent des gens pour ça. Et puis il y a aussi, et il y en a beaucoup, vous le verrez dans les débouchés, il y a beaucoup de gens de GI qui évidemment tentent leur chance tout seuls à travers des startups ou rejoignent des startups où ce goût pour l'innovation, il est quand même, et ce goût, pas ce que ce goût, les méthodes d'innovation sont quand même très importantes. Voilà. Donc voilà pourquoi l'innovation y tient beaucoup, à la fois parce que de manière générale on veut que vous soyez innovant, et puis c'est un des piliers en tant que tel. Alors il y a des projets d'ailleurs, Mélusine, où il y a un contenu innovation assez fort. Vous en verrez certains tout à l'heure, en présentation, et vous verrez que c'est des projets qui sont à la fois supply chain et innovation, y compris avec des contenus, vous le verrez sur la partie béton, avec des sujets qui sont autour du numérique. Et tout. Alors, le mieux, c'est que vous les voyez tout de suite, ces projets, puis je reprendrai la main après.
Alors, on a choisi de vous présenter trois sujets. Il y en a un qui est sur la traçabilité du béton et qui est assez amusant parce qu'il s'intéresse à des problématiques de supply chain et en même temps, il est très innovant. Donc, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux. Et en plus, qui est dans un monde, qui est dans le monde du génie civil, qui est quand même cœur pour l'école. Et il y a des vraies problématiques pour le chantier du futur. Donc, c'est quelque chose qu'on porte et qu'on porte avec Navier aussi. Donc, c'est important que vous puissiez le voir. On a un deuxième sujet qui est sur Eurotunnel. Il y a une chaire Eurotunnel à l'école. Et quand Fabrice vous disait, nous, on ne s'intéresse pas trop à la mécanique, ce qui est assez amusant, c'est que les étudiants ont dû aller voir des chercheurs en mécanique parce qu'ils voulaient soulever un rail et donc il fallait turquer la résistance. Et le dernier sujet, c'est The Couples. On l'a choisi pour deux raisons. Le premier, c'est parce que c'est dans un domaine complètement différent des deux autres, c'est dans la mode. Et la deuxième raison pour laquelle on l'a choisi, c'est parce qu'il utilise les data pour essayer de comprendre qui sont les clients et pour après pouvoir faire des prévisions. Et en plus, il a été innovant parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas faire des prévisions sur un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de, sur base des achats qui ont été faits, de proposer d'autres produits. Et comme ça, on va pouvoir pas faire de la prévision, mais essayer de mieux organiser son stockage, sa production et tout ce qui va avec.
Bah c'est parti, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Super. Non, il y a eu un an là-haut. Bon, je vais essayer de rapprocher le micro alors. On va pas être trop long, on va essayer d'intéresser ceux qui font du Qt Creator au fond, ça sera notre objectif. Alors moi j'étais sur le projet Eiffage avec comme sujet la traçabilité du béton. Du coup ça fait pas super rêver comme sujet dit comme ça. Mais en fait, c'était. Il a fallu un peu nous convaincre de le prendre, mais je pense que c'était. Je ne vais pas dire un des sujets les plus intéressants, mais je pense un des sujets qui, après avoir vu un petit peu tous les sujets, m'a vraiment le plus marqué, on va dire. En gros, pourquoi la traçabilité? Donc, on a travaillé avec Eiffage, qui est donc une société qui fait des chantiers de génie civil. Et on imagine souvent que vous avez les chantiers de génie civil qui sont un petit peu des unités isolées, qui travaillent toutes seules, mais en vrai, ce n'est pas vrai. Vous avez avant eux des centrales à béton qui sont censées fabriquer le béton, et après eux, vous avez des laboratoires qui font des tests dessus. Donc ça fait pas mal de gens qui interviennent un petit peu dans la vie du béton. Et le gros problème, c'est que chacun de ces acteurs, non seulement ils arrivent pas à communiquer entre eux, genre pas du tout, et en plus, de manière interne, c'est déjà totalement archaïque. Donc il y a du papier qui circule, ils écrivent des trucs à la main sur des bons de livraison, ils entassent des machins dans des classeurs, ils savent plus, ils se retrouvent avec des tas comme ça de classeurs. Des tas de papiers où ils ne savent même plus à quoi ça correspond. Et l'embêtant, c'est que c'est très embêtant à la fois pour eux, parce que forcément, si vous ne savez pas retrouver le béton que vous avez utilisé, vous ne pouvez pas avancer. Quoi. Et c'est surtout embêtant pour leurs clients, parce que le client, à la fin, il leur demande un gigantesque dossier qui contient tout ce qu'ils ont fait pendant le chantier, ce qui fait qu'ils sont obligés de payer des gens pendant genre un mois pour récupérer toutes les infos, remplir les trous à la main alors qu'ils n'y connaissent rien, signer les trucs qui étaient censés être signés, qui n'étaient pas signés. Enfin, c'est un gros bordel. Et du coup, nous, on arrivait là-dedans, et notre but, c'était de faire en sorte de rendre la traçabilité mieux. C'est vachement, vous avez vu un peu les slides avant, où on vous a parlé de supply chain, on vous a parlé de gestion de stock. Et après, on avait une deuxième slide où il y avait marqué soft skills. Et nous, dans notre projet, on était quasiment purement dans les soft skills, en fait. Et c'est pour ça que ça changeait vraiment de tous les projets qu'on avait pu faire avant. C'était vraiment aller voir les gens sur le terrain, aller faire des visites. On a passé genre au moins 2 mois à faire des visites, voir des chantiers, des centraliers, rencontrer des gens qui remplissaient des trucs, des comptables, tout ce que vous voulez. Super bien encadré par la société, parce que forcément, Eiffage, c'est une grosse société avec des gros moyens. Donc on a pu aller voir tous ces acteurs-là, leur poser des questions et trouver une solution pour eux. Donc au niveau de la solution, je ne vais pas forcément vous la décrire, parce que c'est un truc très très large. On s'est plus intégré vraiment sur le processus, on leur a fait un cahier des charges pour une application, on leur a imaginé un boîtier que les chefs de chantier pourront avoir sur eux, etc. etc. Je ne vais pas forcément décrire la solution. Je vais plus revenir sur ce que ça nous a appris en vrai, parce que c'est vraiment l'important de ce projet. Ce que ça nous a appris, c'est que même en tant qu'ingénieur, même en sortant des classes préparatoires, même après une première année où vous avez fait beaucoup de mathématiques, vous êtes encore, enfin ce qu'on vous demandera en partie, c'est vraiment ce qu'on a vu sur la deuxième slide. C'est-à-dire être à l'écoute, savoir innover, savoir trouver les besoins chez les personnes qu'elles n'arrivent pas forcément à expliquer ou même à sortir, donc ça ne se rend même pas forcément compte parce que c'est dans leur travail quotidien. Et vous, votre boulot, c'est d'arriver à repérer ça. Si jamais vous avez besoin des mathématiques ensuite pour résoudre leurs problèmes, là, on vous demandera des qualités mathématiques. Mais nous, on n'a pas fait une seule ligne d'équation, en fait, dans notre projet. Et c'est en ça qu'il est très intéressant, parce qu'on a une solution qui va être implémentée. Là, d'ici 2 semaines, on va avoir un premier chantier qui va utiliser une première version de notre solution. Et d'ici septembre prochain, elle va être implémentée dans un certain nombre de chantiers. Donc, ça se trouve, dans quelques années, vous habiterez dans un bâtiment qui aura été construit avec la solution qu'on a proposée. Et ça, c'est vachement cool, enfin, de notre point de vue. Mais voilà, vous n'avez absolument plus besoin des maths dans un sens. Vous continuez à en faire, mais c'est vraiment un département, on va dire, que j'ai choisi personnellement parce qu'il développe toutes ces capacités qu'on ne vous a jamais apprises jusqu'à maintenant.
Alors, ce qui est intéressant dans le projet de Raphaël, c'est que, comme il l'a dit, tout de suite, la solution elle est mise en œuvre. Et ça montre vraiment qu'il y a un véritable intérêt à le faire. Et quand EFAGE est venu nous voir, ils nous ont dit aujourd'hui les problématiques qu'on a, c'est essentiellement des problématiques de supply chain, d'organisation des process, d'organisation des flux, de caractérisation de toutes ces cartes. Et c'est vraiment eux qui sont venus nous chercher et ils sont très contents de la solution. Donc on va passer à un deuxième sujet. Donc le sujet d'Eurotunnel, on travaille avec la chaire Eurotunnel déjà depuis plusieurs années et les projets se suivent les uns avec les autres. Après les autres, et au plus on avance, au plus on se rapproche d'une solution innovante dans la gestion de la maintenance, que je vais laisser Adrien vous décrire.
Oui, donc moi, mon projet Mélusine, c'était un travail en collaboration avec Eurotunnel. Alors Eurotunnel, en fait, ils ont un petit souci, c'est que ils ont des problèmes sur leur voie. Bon, c'est rien de très grave, hein, mais il faut qu'ils changent en fait les blochets. Donc les blochets, qu'est-ce que c'est ? En fait, on a les rails, donc c'est dommage parce que là, c'est la présentation finale, on va pas voir, mais en fait, on a des rails, évidemment, pour que le train avance. Et sous ces rails, on va avoir des petits blocs de béton, des petits blocs qui font quand même 100 kg, espacés tous les 60 cm. Et en fait, ces blocs, ils commencent à être endommagés. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas de solution autre que manuelle pour les changer, et ils n'ont qu'une nuit de travail par semaine. Donc, ils les changeaient en fait très manuellement, de manière assez sommaire. Et ils nous ont demandé, en fait, leur demande c'était d'imaginer une solution complètement automatisée pour augmenter énormément en productivité et imaginer pouvoir changer l'ensemble des blochets qu'il y a sous la manche, c'est-à-dire environ 300 000. Avec leur solution actuelle, il y en avait pour plus de 400 ans, quoi. Donc nous, ce qu'on a proposé, on n'y connaissait pas grand-chose. Mais on avait quand même nos cours d'optimisation, nos cours de recherche opérationnelle et de planification des organisations qui nous ont bien aidés. Et en fait, on a mis en place un train de maintenance assez original qui va venir soulever le rail et qui va venir travailler en fait comme une ligne de production sur l'ensemble de la voie dégagée sous le rail. Alors ça peut paraître un petit peu vague, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais enfin voilà, ça nous a posé pas mal de questions. Ce que je retire de ce projet, c'est vraiment la gestion d'un travail en groupe sur un domaine qui nous était pas du tout familier, et c'était hyper intéressant et hyper enrichissant. Ce qui est important aussi, c'est la manière de communiquer les résultats, parce que bon, nous, on était assez persuadés du fait que notre solution elle était bonne, et du fait que il faut qu'il la travaille et qu'il réalise ce train. Mais c'est pas forcément évident de la comprendre. Et je vous montre en fait la manière dont on l'a présenté au jury avec des Legos. Donc Louis il était avec moi. Et en fait on a fait une petite maquette Lego pour expliquer en fait comment notre train fonctionne. Et alors là vous pouvez peut-être ça vous fait un peu sourire. Mais cette maquette Lego, en fait, c'est tout con, mais ça nous a permis de montrer concrètement comment fonctionnait notre train. Et cette maquette, elle a beaucoup plu au jury. Elle permettait directement de comprendre comment fonctionnait notre solution. La chaire Eurotunnel qui est au pont, on leur a transmis notre rapport plus notre vidéo. Le président de la chaire là et va le présenter sous peu là, cette semaine, il me semble, à Eurotunnel à Calais. Donc voilà. C'est bête, mais il y a plein de choses dans le département GI qui, qui sont bonnes à utiliser et qui permettent d'être d'être vraiment compétent et pro lors d'une restitution sur un projet qui nous a quand même tenu à cœur. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est vrai que bon bah voilà, là c'était un domaine complètement nouveau pour nous, mais en sortant du départ, enfin en étant dans le département GI, on a vraiment l'impression qu'on peut appréhender pas mal de, enfin une grande partie des problèmes industriels. Et par exemple, demain l'entretien pour le stage que je demande, c'est un entretien de avec le directeur des achats d'Hermès, donc ça a rien à voir, mais je me sens assez prêt pour le passer, parce que derrière j'ai des cours en GI de tout ce qui est planification des industriels, etc. Je sais comment ça marche une industrie, et du coup voilà, j'ai pas trop d'appréhension.
Alors en attendant, bon, t'as trouvé. Le troisième sujet complètement différent, c'est l'utilisation, la compréhension d'un domaine qui est la mode, et se dire comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre qui sont les clients alors qu'on les a pas en face de soi, et comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de, pas tout à fait de faire des prévisions, mais d'anticiper leurs achats pour pouvoir gérer tous les stocks et toute la production derrière.
Ce que j'ai quand même oublié de dire, c'est qu'on changeait 10 blochers par nuit, et là, avec notre solution, on en change 1000. C'était quand même le but du truc.
Alors moi, je voudrais un peu revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, dans le sens où nous, on n'avait pas du tout de but au début. Enfin, on n'avait qu'un seul but, c'était... Ils nous ont donné cette table, qui était un peu... Bon, voilà, c'est des tickets de caisse, en fait, des lignes de tickets de caisse, et ils nous ont dit, bon, bah, quels sont nos meilleurs clients? C'était un peu ça la question au début. On travaillait à côté d'une boîte de conseil qui avait fait à peu près le même travail, mais bon, le travail était vraiment... complètement pourri. Donc du coup, on a repris tout ce travail-là, on leur a fourni un peu, donc on a fait pas mal d'études de marché, on a découvert un peu tout ce qui était marketing, et on a pu leur donner en fait une liste de clients, donc la liste des clients VIP avec certains calculs. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait uniquement utilisé ça, en fait, pour pouvoir considérer est-ce qu'un client est important, est-ce qu'un client n'est pas important, essayer de comprendre les clients. Et en fait, il y a plein d'autres choses, il y a le marché, il y a l'âge, le sexe, le type d'achat, est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien les soldes, est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien les t-shirts, etc. Donc du coup, en fait, très rapidement, on a fait vraiment très très rapidement, une semaine c'était terminé plus ou moins le travail qu'ils nous avaient demandé. Donc du coup, on leur a proposé, c'est vraiment pour ça que je trouve ça intéressant, c'est qu'on leur a proposé d'aller plus loin, on leur a proposé d'analyser vraiment plus leur base de données, parce que rien n'était fait là-bas. Donc du coup, on a regardé un peu ce qui était fait par exemple sur leur site. Donc c'était complètement ridicule. Par exemple, quand tu cliques sur un cardigan chez Couples sur le site, et bah, qu'est-ce qu'on te propose? Des cardigans, quoi. Enfin, après, une fois que tu as cliqué sur l'article. Alors que sur des sites comme Azos, sur plein d'autres sites, on va avoir quoi? Des chemises qui vont aller avec, ou des trucs comme ça. Du coup, nous, on n'avait aucune connaissance en marketing, on ne savait pas quel produit était lié avec les autres. Donc on a, de notre côté, vraiment fait pas mal de stats, des trucs comme ça, pour pouvoir créer en fait des modèles. Et puis, avec notre base de données qui à la base ressemblait à rien, on a défriché, on a vraiment cherché beaucoup de choses dedans, et on a créé en fait des corrélations entre des produits. Et donc du coup, en fait, ça c'est genre que des stats. On verra ça peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas si certaines personnes en ont déjà fait, mais on arrive à dire maintenant que par exemple une ceinture, une robe et une jupe vont être très corrélées, non pas parce qu'on a fait des études marketing, mais parce que en fait on a utilisé les données pour pouvoir avoir des considérations comme ça. Ensuite, on a fait un truc qui est assez rigolo. Donc ça, c'est un truc auquel on s'est dirigé tout de suite, parce que moi, j'avais toujours voulu faire ça, c'est mettre des gens dans des cases. Et voilà, on l'a fait. En fait, on a essayé de... Ça, c'est vraiment des trucs qu'on connaissait pas du tout, mais on peut scorer des gens. Combien est-ce que toi, t'aimes bien un t-shirt? Combien est-ce que toi, t'aimes bien un t-shirt? T'es 200 t-shirts, toi, t'es 400 t-shirts. Enfin, on peut donner des scores en fonction de la récence, la fréquence et le volume d'achat de nos clients. Et en fait, après, tu prends, je sais pas, 20 articles, tu mets tout, tu fais tout tourner, et tu peux mettre des gens dans des cases. Et c'est super cool, parce que maintenant, je sais exactement si quelqu'un, par exemple, j'ai quelqu'un de mon groupe 1 qui rentre dans mon magasin, je le détecte, ou sur mon site, bah, je sais exactement qu'il aime les chemises, les polos à manches longues, les pulls et les t-shirts à manches courtes. Donc, ce qu'on leur a proposé au final, c'est ce genre de choses. Imaginons, c'est... Ce qui est fait actuellement, par exemple, c'est que si vous avez l'application The Couples, enfin, c'est pas encore développé, mais si vous avez, par exemple, l'application Zara ou l'application JD, ce genre de choses, en fait, vous rentrez dans le magasin sait que vous êtes là. C'est-à-dire qu'il sait que vous êtes là, il sait qu'est-ce que vous avez acheté, il sait dans quel groupe vous appartenez. Et en fait, limite, on pourrait avoir sur l'écran du vendeur, en fait, Monsieur Coquille,
qui rentre dans le magasin. On sait qu'il vient, il fait partie du groupe 1. On sait quels sont les articles préférés du groupe 1. Donc, du coup, on sait Monsieur Coquille, ben voilà, vous aurez ça. On sait également, on a vu qu'on a fait des corrélations entre des produits, mais aussi tu peux faire des corrélations entre des comportements d'achat, c'est-à-dire un achat, quelqu'un qui achète fréquemment ou quoi. En fait, on sait quels sont les articles pour la catégorie précise qui vont fidéliser le client, qui vont le faire acheter plus. Donc, par exemple, ici, on doit fidéliser le client parce que c'est quelqu'un qui achète avec des gros montants, mais pas fréquemment. Donc, du coup, il faut le faire revenir tout souvent. Donc, du coup, on va lui vendre des blousons. On ne sait pas pourquoi, mais c'est les maths qui le disent. Et ensuite, on sait ce qu'il a acheté avant et on va savoir quoi lui rendre. Donc, du coup, en fait, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur du projet Mélusine. Donc, nous, on s'est vraiment investi dedans. Au début, c'était parti. On avait deux commanditaires. On avait une seule commanditaire. C'était une ancienne dépôt, une fille, qui est business analyst. Ensuite, on est parti. Du coup, on a commencé à faire un peu de marketing. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui s'est rajouté. C'est quelqu'un du service client. Donc, une autre fille. Et ensuite, il y a un autre mec, le directeur, plus ou moins du secteur, qui s'est rajouté à l'affaire de plus en plus parce que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et là, au final, on a le directeur multicanal et le directeur stratégique qui sont avec nous sur le projet. Donc, voilà. Et ils nous écoutent un peu sur nos conseils. Donc voilà, on a réussi à proposer une solution, on a innové là-dedans, parce que rien n'était fait. Au début, on avait un projet un peu... Enfin, c'était un peu pourri, quoi. On devait juste dire qui était VIP. Et on est complètement parti en live, on a fait un truc sympa.
Et l'évaluation des projets, elle se fait bien sûr sur la valeur ajoutée du projet, mais aussi sur la capacité de l'équipe à rebondir. Et le point commun entre tous ces projets, c'est la demande mal formulée du commanditaire, comme Adrien vous l'a dit, bon bah vous allez plus loin par rapport à Eurotunnel, ou comme Léo vous l'a dit en disant bah voilà vous avez les tickets, maintenant vous faites quelque chose. Ça c'est le point commun de tous. Ensuite le deuxième point commun, c'est que il y a toujours un mix entre les problématiques de la supply chain et d'innovation. Un sujet réel avec un vrai besoin du commanditaire, à tel point que, par exemple, The Couples, ils avaient fait appel à un cabinet de conseil qui a fait un boulot ni fait ni à faire, et ils sont venus voir l'école en disant « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Donc, il y avait un vrai besoin. Et puis, le dernier point commun à tous les projets, c'est la force de conviction et la capacité de présenter. Si vous n'êtes pas capable de montrer les enjeux du projet, de montrer en quoi ce que vous avez fait c'est innovant, pourquoi c'est important, et vous l'avez fait comme ça et vous devez convaincre votre auditoire que c'est comme ça qu'il faut le faire, sans ça, bah les commanditaires, effectivement, ils ne vont pas tellement acheter ce que vous leur proposez.
Bon, merci hein, en tout cas de ces présentations. Il nous reste combien de temps ? Un petit moment et puis on va prendre quelques questions surtout. Donc, tout ça, en fait, alors peut-être on parle de la troisième année. Bon, tiens, avance, on parlera de ça après. Des compétences. Comment se passe la troisième année? La plupart d'entre vous, ça je pense que c'est valable pour beaucoup de départements, hein, peut-être encore plus pour le nôtre, mais c'est vrai que la plupart d'entre vous partent en césure avec deux stages de 6 mois. Nous, on trouve ça bien, on y tient beaucoup. Je sais que c'est quelque chose qui est assez challengé. C'est l'école des ponts qui a inventé la césure dans les écoles d'ingénieurs. Ça date de l'époque où j'étais moi-même à l'école des ponts. C'est vous dire à quel point c'est vieux. Et on y tient beaucoup et c'est très apprécié. C'est très apprécié des recruteurs. Moi qui suis recruteur par ailleurs, les gens qui ont fait une année de césure ont quand même une maturité quand même supérieure. Et je trouve que faire une année de césure juste derrière une année qui est quand même assez académique, la deuxième année, même si on vous met en phase industrielle, etc., vous avez des cours, vous apprenez plein de choses, hein, vraiment. Tout de suite, l'expérimenter, soit 6 mois dans du conseil, dans l'industrie, ou etc., franchement, c'est très efficace. Et après, quand vous revenez, beaucoup d'entre vous vont à l'étranger, faut être clair, dans un certain nombre d'universités. Donc, c'est statistiquement la majorité. Il y en a qui font de plus en plus quand même de l'approfondissement en supply chain, qui vont faire des projets Mélusine un peu advanced d'ailleurs, un peu plus approfondis. Il y a évidemment le programme ME310 où il y a assez peu d'élus et il faut un goût pour l'innovation, mais qui est un programme absolument exceptionnel. Les gens qui sont passés dans ce programme, je pense qu'ils ne l'oublieront jamais. Donc ça, c'est une autre opportunité. Et puis ensuite, il y a des choses qui peuvent être plus maths appliquées. Hein, de plus en plus... vous avez vu juste avant The Couples, c'est vraiment du data analytics. Il faut que vous sachiez que le big data dont vous avez tous entendu parler, hein, une des premières applications, voire je pense que la première application, moi je vois mes collègues consultants qui font du big data, 80% de leur business c'est du marketing. Donc ce que vous avez vu juste avant, c'est l'application assez classique du big data. Et c'est assez passionnant d'ailleurs parce qu'on trouve dans les données des choses qu'on ne voit pas sinon, donc c'est assez passionnant. Et effectivement, vous avez la possibilité, il y a de plus en plus de gens de GI qui s'intéressent à ces sujets et on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et puis vous pouvez approfondir le sujet recherche opérationnelle aussi pour ceux que ça intéresse. Donc voilà les possibilités en 3A. Alors on va maintenant, reviens au slide ce que vous faites aujourd'hui en sortant de GI et puis après on va un peu parler du futur. Alors, ce qui a beaucoup changé en 10 ou 15 ans, et d'ailleurs, le mot GI, on se pose la question, pour tout dire, de renouveler le nom du département, parce que génie industriel, certes, c'est une terminologie académique bien établie, mais ça commence à pas ressembler beaucoup dans les mots à ce qu'on fait et ce que font les gens en sortant de GI. Alors, la première chose, c'est qu'il y en a pratiquement un tiers d'entre vous, c'est tout ce qui est en bas là, qui vont dans des start-up ou dans la nouvelle économie. Chose qui n'existait absolument pas il y a 10 ou 15 ans. Moitié d'ailleurs, c'est à l'international. Après, on est un des départements qui forme le plus de gens pour aller dans le conseil. On partage ça avec SEGF. Donc, du conseil en stratégie, mais plutôt chez GI, ce qui est logique, du conseil opérationnel autour des sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, il reste des gens quand même qui vont dans les grands groupes, et en particulier qui prennent des postes de supply chain dans des grandes entités. C'est vrai que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire, quand on voit les statistiques de GI, il y a 10, 15 ans, beaucoup de gens allaient chez Renault, chez PSA, chez etc. Maintenant, c'est moins vrai. Les gens vont dans des plus petites structures, vont dans les start-up, vont dans le conseil, effectivement. Et les grands groupes, ils ont intérêt à se bouger un peu pour recruter des gens comme vous, parce qu'ils commencent à avoir une réputation un peu pas très agile, ça va pas assez vite, etc. etc. Ils se posent, croyez-moi, on les rencontre, ils se posent beaucoup de questions d'un point de vue RH. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est assez large ce que vous pouvez faire. Alors, Avant de prendre vos questions, je vais finir par quelque chose que vous avez vu transparaître des projets Mélusine. On parle beaucoup du digital et du numérique en ce moment. J'ai parlé du big data. Et on en parle beaucoup on parle d'Amazon, on parle du marketing, etc. Dans le grand public, on en parle assez peu sur les opérations. Alors, les opérations, par toute la chaîne industrielle que vous avez vue. Mais paradoxalement, l'industrie est un tout petit peu en retard. C'est-à-dire que finalement, le grand public a presque de l'avance en termes d'utilisation du digital avec les applications, les téléphones, etc. Et vous avez vu tout à l'heure le sujet Eiffage. Ça vous paraîtrait surréaliste d'arriver dans un chantier et de voir des gens qui arrivent avec du papier, des trucs qui ont été photocopiés, on met des tampons. Vous dites, mais c'est quoi là? C'est Zola. Ben, l'industrie... c'est pas que Zola tout le temps, mais le numérique, il n'a pas encore fait complètement son entrée. Donc déjà, digitaliser toutes les opérations de suivi du béton qu'on a fait chez Eiffage avec des applis sur des téléphones, des machins, ben voilà, ça peut paraître simple, mais déjà, il faut le faire. Et arrivent des choses, évidemment, beaucoup plus sophistiquées, notamment sur la robotique, enfin sur toute l'automatisation, tout le big data utilisé pour la qualité. Nous, on commence à avoir des projets, par exemple, chez Argon, où on utilise des données qui ont été captées par les systèmes d'information sur la qualité des produits et on essaye de faire des corrélations pour voir pourquoi un produit a eu un problème qualité et c'est quoi les critères, on les reconnaît, etc. Donc il y a ces deux sujets-là. Et voilà, et il y en a plein d'autres. Il y a évidemment l'impression 3D. L'impression 3D, ça permettrait peut-être de régler complètement les sujets des pièces de rechange, par exemple, qui sont un véritable cauchemar pour des industriels. Voilà, donc... Je ne vais pas vous décrire tout ça, mais l'industrie 4.0, elle est quand même en marche. Donc l'arrivée du numérique dans tout cet environnement-là, il est quand même en marche, il y a des projets partout, et ça, il faut absolument vous y préparer. Alors, on vous y prépare, évidemment, déjà, vous avez vu, hein, 2 projets sur 3, il y a une dimension digitale, très clairement, et il y avait d'autres projets dans ce cas-là sur le projet Mélusine. Alors, on vous y prépare et on commence à vous y préparer de plusieurs manières. À la rentrée 2018, ce n'est pas pour 2017, mais c'est pour 2018, donc vous êtes concernés. On est en train de monter avec Polytechnique un sujet sur l'usine du futur. Donc on voit ce que nous, on peut apporter, ce que Polytechnique pourrait apporter, et c'est en cours de constitution. Donc ça, c'est un de nos projets importants du département. Dès la rentrée 2017, on voudrait créer un séminaire un peu régulier sur ces sujets-là. Donc on a déjà les acteurs pour le faire, etc. Ça, c'est un point important. On va sur le développement de la ligne du futur. Et évidemment, il y a des liens avec d'autres départements. Le génie civil, vous avez vu le cas d'école des phages, hein, mais le génie civil est en train de faire sa révolution aussi numérique. Les chantiers, dans les années qui viennent, on ne va pas les faire comme avant. Ils sont en train d'être robotisés, il y a du numérique partout. Et ça, GI a un rôle à jouer et on veut monter des parcours avec GCC sur ce sujet. Voilà. Et enfin, où on n'a pas été très adroit jusque-là, mais on est en train d'optimiser, on voudrait que vous puissiez, je ne veux pas trop m'engager pour l'année prochaine, parce qu'on a des problèmes d'emploi du temps, tout bête, mais on voudrait que vous puissiez avoir accès à certains cours de IMI qui sont absolument indispensables dans l'usine du futur. L'usine du futur, j'ai un transparent que je ne vous fais pas voir là, mais les 3 grosses compétences pour être capable d'affronter ces sujets de demain, vous en avez déjà, on va dire, 2 sur 3. Si vous allez chez GI, vous en aurez 2 sur 3. Vous aurez la maîtrise de la chaîne de production et de tous ces sujets métiers et business, c'est ce qu'on vous a présenté. Il y a une dimension innovation absolument incroyable. Par exemple, moi, je fais un projet à la SNCF. On dit la SNCF, c'est pas très innovant. La SNCF, c'est une des boîtes les plus innovantes sur le digital en France. Hein. Et on fait un projet qui s'appelle Usine du futur, où on met des nouvelles technologies dans les ateliers de maintenance et on utilise le design thinking. Donc, vous avez cette deuxième brique à votre disposition, qui est la capacité d'innover, le design thinking, qui est absolument fondamental dans l'usine du futur, parce qu'il va falloir repenser toutes les manières de travailler. Donc là, il faudrait explorer, voilà. Donc ça, c'est la deuxième brique. Et la troisième brique, vous ne l'avez qu'en partie. C'est-à-dire, vous avez la recherche opérationnelle, on vous forme à la simulation de flux, tout ça, ça va dans le sens. Mais il va vous manquer, et il vous manque pour l'instant encore, tout ce qui est, on va dire, big data, machine learning et tout. Il y a des cours qui sont proposés par IMI. Jusque-là, il y avait quelques conflits d'emploi du temps. Voilà. Et puis après, il y a des choses encore plus technologiques où on réfléchit à l'école sur les sujets de robotique, d'objets connectés, etc. Cette dimension-là, il faut la combler. Mais avec ces 3 briques-là, vous serez très armés pour les sujets usines du futur.
Donc, rapidement, comment est-ce qu'on traduit tout ça dans un cursus ? Je vais pas... On a des transparents dans lesquels on peut expliquer, mais très rapidement. Le premier semestre du département, il est organisé sur les fondamentaux du génie industriel. Tous ces outils dont Fabrice vous a parlé, le cours planification modélisation des systèmes de production, la semaine d'ouverture modélisation, introduction au design thinking, possiblement recherche opérationnelle. Et puis ensuite, vous avez vu qu'il y a beaucoup de métiers, beaucoup de sujets. Et donc ce qu'on fait, c'est que pendant le premier semestre et dans le cours du second semestre, on passe énormément de temps sur ce qu'on appelle une approche compétence. Le département est structuré pour vous permettre individuellement de réaliser le projet que vous avez envie, ou du moins de vous aider à avancer dans la construction d'un projet professionnel. Donc, on s'assure que vous ayez le cœur du génie industriel. Au second semestre, c'est de la coloration. Vous êtes plutôt optimisation ou vous êtes plutôt innovation. Et pendant tout ce temps-là, on réfléchit à se dire vers où vous avez envie d'aller et en fonction d'où vous avez envie d'aller, on va rajouter des cours qui sont pertinents par rapport à un début de projet professionnel. On va passer énormément de temps à la discussion sur voilà où j'ai envie d'aller, voilà mon métier, à quoi j'ai envie qu'il ressemble, voilà les composantes principales, et ça, vous en aurez des éléments parce qu'on a le séminaire métier du département. Et à partir de là, on va se dire, OK, bah, qu'est-ce qu'il faut comme fondamentaux en deuxième année pour aller vers ce projet-là? Et puis, la césure, elle me sert à quoi? Elle me sert à apporter d'autres compétences, elle me sert à tester des environnements, on va réfléchir là-dessus. Et la troisième année, elle vient comme un aboutissement dans votre projet professionnel, vous savez où vous avez envie d'aller, vous choisissez une spécialité, et cette spécialité, elle peut être très bien IMI. On a des étudiants qui font, même à l'étranger, des masters en data science, où ils peuvent être très production, où ils peuvent être très marketing, où ils peuvent être plein de choses. Mais tout ça, ça se construit petit à petit. Et donc, dans le département, on a une approche compétence qui fait qu'on travaille beaucoup par projet. On a deux gros projets qui structurent l'année de deuxième année. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous allez tester les choses, vous allez montrer que vous êtes en train d'acquérir des compétences, et aussi où toutes les compétences, toutes les connaissances techniques en recherche opérationnelle, en stats, en tout ça, c'est là que vous les intégrez et que vous les mettez en application. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir dire aux employeurs, regardez, je sais faire ça, je suis pas juste une somme de cours, je suis beaucoup plus que ça. Et je suis beaucoup plus que ça aussi parce que j'ai toute la partie humaine qui est fondamentale, vous l'avez vu dans les présentations. Et hier, j'étais en train j'étais présidente du jury pour un PFE avec Euro Disney. C'était sur du très financier. Et ce qui a fait la différence, c'est que non seulement elle était capable de dire, voilà comment est-ce qu'on structure une décision d'investissement, on calcule le payback, l'IRR, la net present value, tout ça, ok. Mais de dire à la maison mère, aux États-Unis, c'est comme ça que vous raisonnez, mais néanmoins, il y a des facteurs qualitatifs, il y a des facteurs humains, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte, être capable de le démontrer et d'avoir une force de conviction pour le faire, c'est quand même hyper compliqué et ça s'apprend. Et c'est sur ça qu'on travaille énormément. Donc, comme l'a dit Fabrice, on insiste beaucoup sur les soft skills. On fait de la communication, on travaille sur le leadership, on travaille sur la communication corporelle, on travaille sur plein de choses. Oui, ça peut vous paraître un peu blablabla, bla. Mais il s'avère que quand un DRH d'un très grand groupe de conseils en ingénierie, qui n'est pas celui de Fabrice, vient et qu'il nous dit « voilà ce qu'on attend de nos consultants à différents échelons », ce qui fait la différence, ce qu'il nous a présenté, ce n'est pas du tout les compétences techniques. Avec vos diplômes, on considère que vous les avez de base. Ce qui fait la différence, c'est tout le reste. Et on travaille beaucoup là-dessus.
Bon, on va s'arrêter là. Rendez-vous les petites classes où on sera en mode, évidemment, on ne fera pas de présentation du département, hein, mais on sera en mode, voilà, ce sera des anciens essentiellement, et vous pourrez poser toutes les questions, le format il sera peut-être plus favorable. Voilà, bonne journée.